Fontaine. Alors aujourd'hui, je vais vous lire les entretiens de 1956 par mère. Alors c'est le 5 septembre 1956, alors elle nous lit La synthèse des yogas, volume 1, page 190-191 de Sri Aurobindo. Le principe de sombre et lourde inertie est la base de la vie. Tout est enchaîné par le corps, ses besoins, ses désirs. Enchaîné à un mental trivial, à des émotions et des espoirs mesquins, à une répétition insignifiante de petits fonctionnements sans valeur, petits besoins, petits soucis, petites occupations, petits chagrins, petits plaisirs, qui ne mènent à rien au-delà d'eux-mêmes et portent le sceau d'une ignorance qui ne connaît pas sa propre raison d'être ni son but. Ce mental physique d'inertie ne croit à aucune autre divinité qu'à ses petits dieux terrestres. Il aspire peut-être à un confort, un ordre, un plaisir plus grand, mais il ne demande aucune élévation, aucune délivrance spirituelle. Plus haut, au centre de la vie, nous trouvons une volonté de vie dont la force et l'élan sont plus grands. Mais c'est un daimon aveuglé, un être, un esprit perverti qui trouve son exultation dans les éléments mêmes qui font de la vie un tourbillon plein de luttes et d'imbroglio malheureux. C'est une âme de désir, humaine et titanique, accrochée aux couleurs tapageuses, à la poésie désordonnée. La tragédie violente et le mélodrame grandiloquent qui vont avec le flot mélangé du bien et du mal, de la joie et du chagrin, de la lumière et de l'obscurité, de la jouissance capiteuse ou de la torture amère. Elle aime ces choses et voudrait en avoir toujours plus, et même quand elle souffre et crie contre elle, elle n'accepte rien d'autre et rien d'autre ne peut lui donner de la joie. Elle hait toutes les choses supérieures et se révolte contre elles. Et dans sa furie voudrait piétiner, déchirer ou crucifier tout pouvoir plus divin qui aurait la présomption de rendre la vie pure, lumineuse, heureuse, et qui voudrait arracher de ses lèvres le breuvage enflammé de cet excitant mélange. Il y a bien une autre volonté dans la vie, qui consent à suivre les améliorations du mental idéal et se laisse séduire quand il offre d'extraire de la vie quelque harmonie, quelque beauté, quelque lumière, quelque ordre plus noble. Mais ce n'est qu'une petite partie de la nature vitale et elle est facilement écrasée par ses compagnons de joug plus violents et plus lourds et plus obscurs. Et elle ne se rallie pas aisément non plus à un appel qui dépasse celui du mental, à moins que cet appel ne trahisse ses propres fins. Mais comme le fait d'habitude la religion, en abaissant ses exigences à des conditions plus intelligibles pour notre nature vitale obscure. Le chercheur spirituel devient conscient de toutes ses forces en lui-même. Il les trouve partout autour de lui. Il doit se battre et lutter constamment pour se débarrasser de leurs griffes et les déloger du bastion bien retranché où pendant si longtemps elles ont régné sur son être et sur l'existence humaine qui l'entoure. La difficulté est grande, car leur entreprise est si forte en apparence, si invincible en apparence, qu'elle justifie le dit-on méprisant qui compare la nature humaine à la queue du chien. Redressez-la tant que vous voudrez par la force morale. La religion, la raison ou n'importe quelle autre est fort rédempteur, elle finira toujours par revenir à la courbe tortueuse de la nature. Et si grande est la vigueur, la poigne de cette volonté de vie agitée, si immense est le péril de ses passions et de ses erreurs, si subtilement insistante ou continuellement envahissante, si obstinée jusqu'aux portes même du ciel et la furie de ses attaques, ou l'obstruction fastidieuse de ses obstacles, que même le saint et le yogi ne sont jamais sûrs contre ses intrigues ou ses violences. De leur pureté libérée, ni de la maîtrise acquise sur eux-mêmes à force de discipline. Sri Aurobindo. Mère, après un long silence, il me semble quand on commence à voir les choses comme cela, quand elles vous apparaissent telles qu'elles sont décrites ici, on est déjà près, très près de la solution. Le pire est que généralement, toutes les réalités matérielles paraissent la seule chose réelle et que tout ce qui ne semble pas tout à fait secondaire est le droit de cette conscience matérielle à gouverner, à diriger, à organiser la vie, à dominer tout le reste et légitimer au point que si quelqu'un essaye de toucher cette sacro-sainte autorité, on le considère comme un demi-fou ou un être profondément dangereux. Il me semble qu'il faut aller déjà un très long. Il me semble qu'il faut aller déjà un très long chemin pour considérer la vie comme Sri Aurobindo l'a décrite ici. Et si je suis tout à fait convaincue que si on le sent, on la voit comme cela, telle qu'il l'a décrite, on est tout près, très près de la guérison. Ce ne sont que les natures d'élite, celles qui ont déjà eu un contact avec une réalité plus haute, avec quelque chose de la conscience divine, qui sentent l'existence terrestre de cette manière-là. Et quand on peut être si complètement conscient de toutes ces infirmités et ces stupidités de la conscience extérieure, de tous ces mensonges de la soi-disant conscience matérielle extérieure, et les soi-disant lois physiques, des soi-disant nécessités du corps, de la réalité de ses besoins. Si l'on commence à voir à quel point c'est faux, stupide, illusoire, obscur, imbécile, on est vraiment très près de la solution. C'est cela l'impression que j'ai eue en le lisant, par rapport à l'atmosphère ordinaire qui me vient des gens qui m'entoure, j'ai eu l'impression que pour voir les choses comme cela, il faut déjà monter sur un sommet très élevé et qu'on est à la porte de la libération. C'est parce que j'ai senti cela si fort que j'ai voulu vous le dire. Si l'on peut relire ce passage et se convaincre de sa réalité, de sa vérité absolue, eh bien, on a déjà fait un grand pas. Silence. Le 20 juin 1956, Douce Mère. Ici, Sri Aurobindo écrit, et cependant, il y a dans le cœur ou derrière lui une lumière mystique plus profonde. Quelle est cette lumière mystique ? C'est l'amour. mère. Après cela, Sri Aurobindo parle de cette lumière mystique qui n'est pas ce que nous appelons l'intuition, car celle-ci descend par le mental, bien qu'elle ne vienne pas du mental, mais qui est en contact direct avec la vérité et qui est la plus proche du divin que l'intellect humain dans l'orgueil de sa connaissance. Est-ce qu'il y a une relation entre cette lumière mystique et l'intuition? Ce n'est pas l'intuition. C'est la connaissance par l'amour. C'est la lumière par l'amour. La compréhension par l'amour. Sri Aurobindo dit que ce n'est pas l'intuition, parce que l'intuition appartient à l'intellect. Dans son expression, en tout cas, l'expression de l'intuition est intellectuelle. Tandis que cela, c'est une sorte de connaissance directe et presque par identité qui provient de l'amour. Et l'oracle intérieur, question. L'oracle, c'est le pouvoir de divinisation, de prévision, de compréhension des symboles, et cela, c'est dans l'être psychique. Les prophètes, par exemple, ce n'est pas leur mental qu'ils prophétisent, c'est un contact direct, par-delà les émotions et les sentiments. Sri Aurobindo dit même que les Védas, notamment, n'étaient pas écrits par le mental et par la tête. La forme de l'hymne jaillissait spontanément de l'être psychique avec les mots. Mère, si quelqu'un a le contact psychique, est-ce que cela veut dire qu'il a ce pouvoir? Plus ou moins, oui. Plus le contact est parfait, plus le pouvoir est grand. Cela dépend aussi des possibilités extérieures de l'être. Mais je vous ai déjà expliqué cela plusieurs fois. Je vous ai déjà dit que quand on entre en contact avec son psychique, certaines facultés se développent spontanément. Par exemple, il y a des gens qui n'ont aucune éducation intellectuelle et qui tout d'un coup ont un pouvoir d'expression tout à fait remarquable qui vient comme cela spontanément par un contact intérieur avec l'être psychique. Question. Mère, si le cœur peut servir à une connaissance plus directe, alors quel est le rôle de l'intellect comme intermédiaire de la connaissance? Comme intermédiaire, dis-tu. Parce que le vrai rôle du mental, c'est la formation et l'organisation de l'action. Le mental a un pouvoir formateur et organisateur, et c'est lui qui met les différents éléments de l'inspiration en ordre pour l'action, pour organiser l'action. Et s'il s'en tenait uniquement à ce rôle-là, qu'ils reçoivent les inspirations d'en haut, ou de ce centre mystique de l'âme, et que simplement ils formulent le plan de l'action dans les grandes lignes ou dans les petits détails pour les toutes petites choses de la vie, ou pour les grandes organisations terrestres, alors il remplirait pleinement sa fonction. Ce n'est pas un outil de connaissance, mais il peut utiliser la connaissance dans l'action pour organiser l'action. C'est un outil d'organisation et de formation très puissant et très capable quand il est bien développé. On peut très bien sentir cela quand on veut justement organiser sa vie, par exemple, mettre différents éléments en place dans son existence. Il y a certaines facultés intellectuelles qui maintenant met chaque chose à sa place et fait un plan et organise. Et ce n'est pas une connaissance qui vient du mental. C'est une connaissance qui vient, comme je dis, des profondeurs mystiques de l'âme et d'une conscience supérieure. Et le mental la concentre dans le monde physique et l'organise pour donner une base d'action à la conscience supérieure. On a cette expérience très bien quand on veut organiser sa vie. Puis, il y a une autre utilité. Quand on est en contact avec sa raison, avec le centre raisonnable de l'intellect, la raison pure, c'est un contrôle puissant sur toutes les impulsions vitales. Tout ce qui vient du monde vital peut être très sûrement contrôlé par lui. Utilisé dans une action disciplinée et organisée. Mais il doit être au service de quelque chose d'autre, pas se satisfaire soi-même. Ce sont les deux utilités du mental. C'est une force de contrôle, un outil de contrôle et une puissance d'organisation. C'est cela, sa vraie place. Douce mère, est-ce que par l'amour seul on peut réaliser le divin ? Oh oui, mon enfant, certainement, c'est le chemin le plus direct. On peut réaliser le divin, c'est-à-dire s'identifier au divin pleinement, prendre pleinement conscience du divin et être un instrument du divin. Mais naturellement, on ne réalise pas le yoga intégral, puisque c'est seulement sur une ligne. Mais au point de vue de l'identification avec le divin, c'est même le chemin le plus direct. Mère, quand on a une joie qui n'est pas ordinaire, est-ce que cela dure ? Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça dure, mère ? Mais ce n'est pas la même partie de l'être qui a la joie. Si tu parles d'un plaisir, le plaisir qui appartient au vital est une chose très fugitive. Et je pense que dans la vie telle qu'elle est maintenant, il n'y a plus d'occasion d'avoir des déplaisirs que des plaisirs. Le plaisir est en lui-même une chose extrêmement fugitive, parce que si l'on continue la même vibration de plaisir un peu longtemps, elle devient déplaisante ou même repoussante, exactement la même vibration. Le plaisir en lui-même est une chose très fugitive. Mais si tu parles de la joie, c'est une chose tout à fait différente. C'est une sorte de chaleur et d'illumination dans le cœur, n'est-ce pas ? On peut avoir la joie aussi dans la tête, mais c'est une sorte de chaleur et d'illumination béatifique qui se produit quelque part. Cela, c'est une vertu qui n'est pas encore à l'état de plein développement. Et on est rarement dans la condition psychologique nécessaire pour l'avoir. C'est pour cela que c'est fugitif. Autrement, la joie, d'une façon constante dans la vérité de l'être, dans la réalité de l'être, dans ton vrai moi, dans ton âme, dans ton être psychique, la joie est constamment présente. Cela n'a rien à voir avec le plaisir. C'est une sorte de félicité intérieure. Mais on est rarement en état de la sentir, à moins que l'on ait pris pleinement conscience de son être psychique. C'est pour cela que quand elle vient, c'est fugitif, parce que la condition psychologique nécessaire pour la percevoir n'est pas toujours présente. Tandis que l'on est d'une façon presque constante dans un état vital ordinaire, ou à la moindre chose déplaisante, ou la moindre chose déplaisante vous amène très spontanément et facilement à la dépression. Une dépression, si on est un être faible. Une révolte, si on est un être fort. Tout désir qui n'est pas satisfait, toute impulsion qui rencontre les obstacles, tout contact avec le dehors qui est désagréable, très facilement et très spontanément crée une dépression ou une révolte, parce que c'est l'état normal des choses, normal dans la vie présente. Tandis que la joie est un état exceptionnel. Et alors le plaisir qui est une sensation agréable, simplement, s'il dure, non seulement il s'émousse, mais il finit par être désagréable. On ne peut pas le supporter longtemps. Alors, tout naturellement, ça va, ça vient. Aussi. C'est-à-dire que la même chose qui vous donne du plaisir, exactement la même vibration après un court moment, ne vous en donne plus. Si cela persiste, cela devient très désagréable. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir du plaisir pendant longtemps. La seule chose qui puisse être durable, c'est la joie. Si l'on entre en contact avec la vérité de son être qui contient cette joie d'une façon permanente. Mère, dans le cœur, il y a une double action, l'action de l'impulsion vitale et celle de l'émotion pure. Qu'est-ce qui rend ce mélange possible? Comment se produit ce mélange? Parce que l'une et l'autre ont leur siège dans le cœur, non? Pas au même endroit. Ce n'est pas notre cœur physique, n'est-ce pas? C'est ce centre-là. Mère désigne le milieu de la poitrine. Il y a des différentes profondeurs. Plus tu vas à la surface, plus cela se mélange, naturellement, d'impulsions vitales et même de réactions purement physiques, de sensations purement physiques. Plus tu vas profondément, moins il y a de mélange. Et si tu vas assez profondément, tu trouveras le sentiment tout à fait pur derrière. C'est une question de profondeur. On est précipité au dehors tout le temps. Tout le temps, on vit comme en dehors de soi, dans une sensation tellement superficielle que c'est presque comme si l'on était en dehors de soi. Dès qu'on le veut même observer un peu, se contrôler un peu, connaître simplement ce qui se passe, on est toujours obligé de reculer ou de tirer vers soi, de tirer au-dedans quelque chose qui est constamment comme cela à la surface. Et c'est cette chose de surface qui rencontre tous les contacts extérieurs, qui vous met avec des vibrations similaires provenant des autres. Cela se produit presque en dehors de vous. C'est cela, l'éparpillement de la conscience ordinaire, constant. Par exemple, un mouvement, une aspiration qui provient des profondeurs psychiques de l'être, parce qu'il y a même chez ceux qui ne sont pas conscients de leur psychique une sorte d'inspiration qui vient des profondeurs, eh bien, elle est obligée pour se faire percevoir de venir à la surface. Et à mesure qu'elle vient à la surface, elle se mélange à toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec elle, mais qui veulent se servir d'elle. Comme par exemple, tous les désirs, toutes les passions vitales, qui dès qu'il y a une sorte de force profonde qui remonte à la surface, s'en saisissent pour leur propre satisfaction. Ou bien les gens qui vivent dans leur mental et qui veulent comprendre l'expérience et l'apprécier, la juger, alors c'est le mental qui se saisit de cette inspiration ou de cette force qui monte à la surface pour son propre bénéfice, pour sa propre satisfaction, et cela se mélange et gâte tout. Et c'est constamment comme cela, constamment il y a des mouvements de surface qui s'introduisent dans l'inspiration profonde et qui la déforment, la voilent, la salissent, l'abîment complètement, la déforment au point que ce n'est plus reconnaissable. Voilà. Alors, je termine la lecture des entretiens de mère de 1956 dans une grande et profonde gratitude à Aurobindo et mère. Merci. Merci, Aurobindo. Merci à vous.